À l'émission Marcher en creusant, nous vous présentons une émission de la série ayant comme titre « Vivre de tout son être », animée par le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Je vous disais dans l'émission précédente comment actuellement évolue la question de la santé et comment les personnes la vivent, particulièrement en Occident, parce que nous parlons quand même ici dans un contexte occidental, même si nous nous laissons éclairer par des expériences venant d'Asie ou d'Afrique. Et je vous disais donc qu'il y a d'un côté une quête thérapeutique qui fait appel à la spiritualité pour arriver à progresser, à mieux se retrouver dans un équilibre personnel qui est aussi de l'ordre de la sagesse. Et puis, je vous disais qu'il y a une quête spirituelle qui est beaucoup plus globale et qui voudrait que soit mieux prise en compte tout l'ensemble de l'affectivité du corps et particulièrement chez les chrétiens. Donc c'est quand même intéressant de voir que dans les évolutions actuelles, à cause de la grande diversité thérapeutique et religieuse que nous connaissons aujourd'hui, il y a aussi en milieu chrétien une nouvelle quête et une nouvelle ouverture à cette quête. Mais je vais vous d'abord vous parler de la façon dont se présente aujourd'hui la quête spirituelle ou les quêtes spirituelles, parce qu'elles ont un nouveau visage. Il est d'ailleurs bien probable que vous qui m'écoutez, vous avez aussi l'occasion d'être en contact avec d'autres spiritualités. Il est possible que vous ayez lu des livres en rapport avec d'autres expériences spirituelles. Peut-être que certains ont lu, par exemple, L'alchimiste de Coelho, ou que d'autres se soient fait initier à la méditation à partir du yoga. Donc vous avez aussi peut-être été à gauche et à droite et vous êtes en quête vous-même d'une réponse spirituelle ou d'une sagesse. Ce qui me paraît important, c'est que dans la quête aujourd'hui, les gens qui sont en recherche sur le plan spirituel désirent être vraiment respectés dans cette quête. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire une recherche qui soit vraiment personnelle. Et du coup, et c'est le cas malheureusement d'un très grand nombre de personnes, parmi les chrétiens également, il y a l'idée que je ne pourrai vraiment faire un chemin spirituel personnel qu'en dehors d'une religion officielle et particulièrement de l'Église catholique. Avec l'idée que, eh bien, l'Église est intolérante, l'Église veut faire entrer les gens dans un certain modèle doctrinal, un certain modèle dogmatique, moral. Et donc, moi, mon chemin aujourd'hui où je ne suis pas très au clair, eh bien, je voudrais bien le mener tout seul. Pour le moment, je voudrais bien être respecté dans cette quête, quitte à me faire aider par l'une ou l'autre personne, mais il y a un refus d'un modèle imposé. Alors c'est peut-être votre question, c'est peut-être votre problème. En tout cas, ceux qui pensent cela font partie d'un nombre croissant de personnes qui s'engagent dans une nouvelle quête spirituelle. Et je dois dire ici que je mets le mot « spirituel » entre guillemets. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais avant cela, je voudrais répondre à une question qui est celle qui était très répandue, qui est « Est-ce que nous vivons un retour du religieux ?» Vous savez, on fait souvent allusion à cette réflexion qu'aurait dit Malraux, et qu'en fait, il n'a jamais semble-t-il prononcé telle quelle, c'est que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Par contre, ce qu'a dit André Malraux, c'est que il s'attendait à ce que le XXIe siècle soit une époque de naissance, d'expérience spirituelle absolument sans précédent. En tout cas, on nous parle de retour du religieux. Alors, dans cette expression-là, quand on vous parle de retour, d'abord, ça voudrait dire que le religieux aurait disparu et qu'il revient. Ensuite, en employant le mot « retour », on a l'air de dire que le religieux auquel nous assistons aujourd'hui est quelque chose qui existait auparavant. Et enfin, quand on parle de retour du religieux, Cela voudrait dire que ce qui se déploie aujourd'hui sous nos yeux comme multiplicité de propositions spirituelles, d'expériences mystiques, d'expériences thérapeutiques, serait de l'ordre du religieux. Or, en fait, aucun des trois points ne se vérifie. Tout d'abord, même s'il y a eu une crise religieuse et elle continue, importante, en France, au Québec, dans d'autres régions du monde en Occident, il faut quand même reconnaître qu'il y a toujours un fond religieux qui souvent a été relié à ce qu'on appelle la religiosité populaire, expression que je ne prends pas dans un sens péjoratif, mais qui nous rappelle qu'il y a dans le cœur de l'homme peut-être beaucoup plus d'expérience et de liens aux religieux qu'on le pense. Il suffit de voir d'ailleurs comment les pèlerinages ont toujours continué à réunir beaucoup de gens, que ce soit à Sainte-Anne ou à Saint-Joseph au Québec, ou que ce soit à Lourdes en France par exemple. Et malgré la laïcité militante qu'on a rencontrée en France, malgré ce qu'on a appelé la philosophie des Lumières, le progrès du rationalisme, eh bien, il y a un fond religieux qui reste, mais qui n'est pas forcément un fond purement chrétien. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'ailleurs, du passé. Quand on parle de retour aussi, ça voudrait dire donc que ce à quoi on assiste aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui avait existé, qui avait disparu et qui revient. Or, cela ne se vérifie pas non plus. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec le brassage des populations, avec les migrations, avec cet extraordinaire pluralisme culturel et religieux que nous vivons au quotidien, vous pouvez rencontrer dans les pays d'Occident tous les rituels du monde. Les rituels de toutes les grandes religions, les nouveaux rituels qui ont été mis au point par des mouvements qui sont nés dans le Nouvel Âge, mais aussi même carrément des rituels magiques ou sataniques, puisqu'il y a un retour de groupes sataniques. Donc ce n'est pas le retour du catholicisme, ce n'est pas le retour d'une pratique religieuse chrétienne régulière. Il s'agit d'un paysage totalement nouveau que d'ailleurs les sociologues des religions ont appelé le supermarché du religieux. Et puis, la question, est-ce que c'est bien à du religieux qu'on assiste ? Est-ce que c'est bien un retour du religieux ? Je dirais, il s'agit peut-être plutôt d'un retour du refoulé. D'un émotionnel archaïque, parfois assez païen, mais païen n'est pas forcément pris ici dans un sens péjoratif. Païen, c'est un mot qui renvoie au terroir, à ce que vivaient les paysans dans le temps. C'est de là que vient l'expression paganus en latin. Et donc, c'est le retour d'une sorte de religiosité primitive qui renvoie au druidisme, au celtisme et à toutes sortes de pratiques parfois très anciennes, remontant au chamanisme, aux Indiens, aux Amérindiens, etc. Donc, il y a là un retour du religieux qui est tout à fait nouveau, qui n'est pas uniquement du religieux, qui est aussi une quête spirituelle différente, nouvelle, avec même de nouveaux visages de cette spiritualité dans le christianisme et dans l'Église. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plutôt que de parler de retour du religieux, les sociologues, dans leur jargon, vont parler de recomposition du croire. Ça veut dire quoi ? Eh bien, les croyances se réorganisent de façon nouvelle et je dirais de façon très individuelle, de façon aussi pratique. C'est-à-dire qu'on veut expérimenter. Et on veut expérimenter beaucoup. Et on veut aussi utiliser les résultats de l'expérience comme on l'entend, en organisant un petit peu ses découvertes, chacun comme il le voit. C'est pourquoi on parlera plutôt d'éclectisme ici, de très grande variété, que de syncrétisme, parce que quand on parle de syncrétisme dans les religions, ça veut dire qu'il y a une synthèse qui est faite entre plusieurs religions. Or ici, c'est pas cela. C'est un mélange personnel de découvertes. Avec une tendance à consommer du spirituel comme n'importe quel bien de consommation, puisque toutes ces expériences sont à disposition. Donc, voilà déjà un point qui est important à retenir. C'est que la quête spirituelle aujourd'hui est une quête très nouvelle, très individuelle, très pragmatique, très éclectique, très variée, avec un risque de consommation et de recherche de résultats immédiats. Mais vous comprenez bien que dans toute cette quête, eh bien, la dimension thérapeutique est importante, puisque on désire bien sûr que cette recherche de spiritualité amène un épanouissement, et un épanouissement qui ait des conséquences sur le physique, sur l'affectif, sur toute la personne. On parle beaucoup aujourd'hui d'holistique, comme vous le savez. Pourquoi des guillemets à quête spirituelle ? si je mets des guillemets au mot spirituel, c'est parce que ce mot spirituel prend un nouveau sens aujourd'hui. En christianisme, quand on parle de spirituel, dans le mot spirituel, vous avez le mot spiritus, c'est-à-dire esprit. Traditionnellement, pour un chrétien, vivre spirituellement, c'est vivre de l'esprit. Or, il y a des tas de gens qui disent qu'ils vivent une spiritualité hors religion. Alors là, c'est intéressant à entendre. D'abord, il faut reconnaître que beaucoup de gens ont une vie intérieure, profonde, qui n'a pas de référence explicite à une religion. Et il y a certainement, parmi les auditeurs, des gens qui réfléchissent sur leur vie, qui, quand ils se trouvent devant de grandes décisions à prendre, se posent la question de la raison de ces choix. Qui, par exemple, à la suite d'un échec professionnel, amoureux, à la suite d'une épreuve physique, psychologique, se posent des questions. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Donc, confrontés à toutes ces questions, eh bien, ces personnes se disent aussi, il faudrait que je trouve un sens à ma vie, il faudrait que j'arrive à une réponse. Et dans ce questionnement, il y a déjà toute une vie intérieure, des temps de silence, des lectures, la recherche de textes, la recherche de maîtres. Et il y a donc là une quête qui ne sera pas forcément reliée à Dieu ni à l'Esprit Saint, qui peut être une quête même athée, le bouddhisme n'a pas de Dieu, mais qui sera déjà quelque chose de l'ordre du spirituel. On peut même aller donc non seulement jusqu'à parler d'une spiritualité athée, mais il y a même une spiritualité qui va se dire tout à fait matérialiste, si vous voulez, lorsqu'on voit quelqu'un comme André Comte-Sponville, philosophe athée, ancien militant de l'Action catholique, qui lui dénie toute forme de transcendance dans le sens de quelque chose de vertical qui renverra un Dieu, alors qu'il est pétri de valeurs chrétiennes. Il croit, par exemple, que l'amour vaut la peine qu'on donne sa vie et qu'on la perde. Par contre, il trouve que l'espérance, c'est la recherche d'une récompense et dans le fond, c'est pas digne de l'homme. Il faut être capable de donner sa vie sans espérer un résultat. Alors les chrétiens diront, mais nous n'espérons pas pour un résultat. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il faut une gratuité dans la quête. Et donc, on n'a pas besoin d'une religion, on n'a pas besoin d'un Dieu pour cela. Et c'est là que nous pouvons retrouver une remarque de Claude Jeffrey qui nous dit, eh bien, au moment où le christianisme devient une culture, donc Claude Jeffrey est un théologien dominicain, quand le christianisme devient culture, c'est-à-dire que les valeurs chrétiennes deviennent des valeurs culturelles, eh bien, il perd sa pertinence comme annonce spirituelle, comme message religieux prophétique. Ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui se disent « si je veux vivre une vie spirituelle, il faut que je la vive en dehors du christianisme ». Et cela pose des questions aux églises sur lesquelles nous reviendrons. Alors, chemin spirituel, chemin religieux, nouveauté de la quête, il nous faut approfondir cela. Pour ceux qui nous rejoindraient à l'antenne maintenant, je rappelle que je suis en train de parler de la quête spirituelle telle qu'elle se déploie aujourd'hui, avec des aspects absolument nouveaux, étonnants. Étonnants parce qu'elle est d'une diversité et d'une richesse telle qu'elle n'a sans doute jamais existé dans l'histoire de l'humanité au niveau de la multiplicité des possibilités qui sont offertes à nous. Et c'est justement de la diversité de cette quête que je voudrais parler parce qu'elle prend beaucoup de visages. Peut-être que certains d'entre vous qui sont là pratiquent des arts martiaux, par exemple. Si l'on se promène dans un grand parc, que ce soit du côté du Parc Royal, du côté du Louvre, par exemple, à Paris, ou que ce soit sur les plaines d'Abraham, à Québec, eh bien, on va voir des gens qui sont en train de faire des gestes lents, concentrés. Ils pratiquent, par exemple, le tai chi. D'autres seront en position du lotus et, près d'une cascade, se concentreront dans le grand silence intérieur, etc. Les gens sont en recherche, du moins ceux qui sont en recherche, essayent de trouver des réponses à des questions essentielles dans un monde qui a l'air de plus en plus fou. Et il me semble que l'on peut dire que la quête telle qu'elle se présente dans son immense diversité se situe, peut être répartie sur un large spectre où il y aurait deux extrêmes. Un extrême, un côté, ce serait le pôle de ce que j'appelle la recherche tous azimuts, c'est-à-dire dans toutes les directions. Et l'autre pôle serait plutôt une attente de prise en charge. Tout d'abord, je dirais que ce n'est pas la majorité des gens qui sont engagés sur une quête religieuse. Mais il faut reconnaître que de plus en plus de personnes, s'interrogeant sur des questions de fond, se rendent compte qu'il faut avoir des espaces pour réfléchir et pour essayer de trouver des réponses qui ne soient pas simplement extérieures, évidentes. Il y en a parmi eux qui se méfient de la rationalité, d'autres qui ont peur d'un envahissement de la technologie. Et donc, il y a ce que j'appellerais des chercheurs de Dieu, des chercheurs d'absolu, qui se mettent en route. Et même s'ils ne sont pas majoritaires, on parle de plus en plus d'eux dans les journaux. Je pense par exemple à la revue Psychologie Magazine, une revue française qui, en décembre 99, disait que 52% des Français disent méditer plus ou moins régulièrement. Mais alors, quand on leur parle de qu'est-ce que méditer, eh bien pour certains, ce sera prendre un espace pour regarder la nature, des temps de silence, vivre des relations en mettant l'amour en premier, respecter des valeurs morales. Sous le mot spiritualité, sous le mot méditation, il y avait beaucoup de choses. Et pour finir, la religion n'arrivait qu'en 8e position. Mais on trouve aussi la musique, le sacré et parfois la superstition. Et cela me renvoie à mon premier pôle. Je vous disais donc un large spectre avec deux pôles, le premier étant une recherche dans toutes les directions. Quand je dis cela, c'est pas forcément péjoratif, c'est les choses telles que les gens le vivent aujourd'hui, et c'est peut-être votre cas à vous qui m'écoutez maintenant. Quelle est la revendication qui se trouve en dessous de cela? Eh bien, dans le fond, je crois que c'est le désir d'être respecté dans une quête singulière. On se sent unique, je me sens unique. Je me sens unique par rapport aux autres, par rapport à Dieu. Je me sens unique dans ma recherche d'absolu, dans ma recherche de sens. Et je me sens tellement unique, je me sens tellement mystérieux d'une certaine façon. Parce que je suis un mystère pour moi-même, je suis un mystère pour les autres, que je ne veux pas être récupéré dans des systèmes où on m'imposerait de l'extérieur ce que je dois faire. Ça, c'est vraiment cette revendication profonde d'un grand nombre de chercheurs de Dieu, de chercheurs d'absolu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a en dessous de cela cette idée que l'on dénie à toute institution, quelle qu'elle soit, que ce soit l'État, que ce soit un parti politique, que ce soit un système d'éducation, que ce soit l'ordre de la médecine ou que ce soit des églises, le droit de définir a priori, pour moi, ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est bon. Sans doute y a-t-il eu des excès d'endoctrinement dans le passé, que ce soit de la part des gouvernements, des politiques ou des églises. Mais en tout cas, il y a un grand nombre de nos contemporains qui veulent être des sujets de leur vie et non pas simplement des objets de discours et qui refusent tout dogmatisme et tout endoctrinement. Tout ce qui est attitude doctrinaire, comme on le dit de façon un peu vulgaire, leur donne des boutons. Alors le corollaire de cela, la conséquence de cela, c'est que lorsqu'on est en recherche de cette façon-là, où va se trouver le critère de vérité? Le critère de vérification, d'authenticité? Eh bien, c'est l'expérience personnelle. Ces personnes veulent expérimenter par elles-mêmes ce qu'on leur enseigne. Elles veulent donc éventuellement être accompagnées, initiées, mais elles veulent expérimenter des spiritualités, des méthodes de prière, parfois des techniques de concentration. Et certaines d'ailleurs rêvent d'avoir, de vivre des états modifiés de conscience. On parle de sortir dans l'astral, on parle d'avoir une espèce de conscience extra-lucide. Il y a aussi parfois là-dedans, il faut le reconnaître, la recherche d'un certain pouvoir. À côté de ça, il y a des gens qui pratiquent très sérieusement la méditation du zen, d'autres qui vont suivre les exercices spirituels de Saint Ignace dans une église. En tout cas, on désire pratiquer, on désire vérifier des propositions spirituelles avec l'idée que dans le fond, le critère de vérité, c'est le bien que j'en retire. Donc, si c'est le bien que j'en retire, c'est à partir du bien-être spirituel, psychologique et même physique que je vais expérimenter, que je vais vérifier et choisir ce qui, dans une tradition, me paraît positif. Il y a donc la revendication d'une quête libre où, dans ce supermarché du religieux, je vais trier ce qui me paraît valable et ce qui me paraît moins intéressant, et je vais garder, à travers mes stages, à travers mes sessions, à travers mes expériences, ce que je peux retenir. Pour moi, on va travailler sur le corps, on va travailler sur le souffle, on va faire des visualisations, il y a de la thérapie par la danse, la thérapie par le rire, la thérapie par le dessin. On va s'engager dans des expériences où spiritualité et thérapie sont profondément entremêlées. C'est donc là que nous voyons à quel point un chemin spirituel prend en compte aussi l'affectivité, le corps. Nous verrons plus loin que dans les différentes propositions qui sont faites, il y a toujours le risque d'être récupéré par des propositions sectaires. En tout cas, pour ce public, c'est la liberté qui est revendiquée, et c'est une liberté qui désire pouvoir s'orienter à partir du bienfait qui est ressenti, mais pas forcément toujours de façon égoïste. Pour certaines personnes, c'est un vrai chemin de libération, un chemin de sagesse, un chemin de construction intérieure, et on retrouvera ça d'ailleurs dans des contextes et dans des milieux chrétiens. Alors, à l'autre bout du spectre, nous avons des personnes qui cherchent des groupes où elles pourront être accueillies dans leur fragilité. Elles pourront trouver une sécurité. Ce sont des personnes qui peuvent avoir vécu des épreuves ou des personnes qui désirent avoir des réponses englobantes, sûres, complètes. Elles veulent être sûres d'avoir toute la réponse et que toutes les réponses soient valables et qu'il n'y ait que ces réponses-là qui soient valables. Donc, pas de risque d'erreur, pas de relativité, un chef qui a toutes les réponses, un groupe qui peut m'accueillir avec toutes mes questions. Et là, nous sommes avec ces groupes identitaires forts qui peuvent entraîner des dérives sectaires, des risques de manipulation, et où la demande d'être reconnue comme unique dans un groupe chaud et fraternel, d'être flatté, d'être pris en charge, d'être encouragé, eh bien, est quelque chose de très important. Alors, ces personnes peuvent être victimes, justement, de récupération. Mais il faut reconnaître que certaines d'entre elles s'orientent dans ces groupes, parfois, tout à fait volontairement. Parce qu'elles ne désirent pas prendre des décisions, elles ne désirent pas faire des choix. Elles ont simplement envie d'être bien et d'être en sécurité. D'où d'ailleurs l'extrême difficulté que l'on peut rencontrer lorsque l'on veut aider des personnes à en sortir de ces dérives sectaires ou de ces systèmes sectaires. Parfois, il y a des familles, vous en connaissez peut-être, peut-être que vous pensez à des visages autour de vous, de personnes dont vous vous dites « mais c'est pas possible, dans ce groupe-là, il n'existe plus pour lui-même, on ne le reconnaît pas ». Alors certains sont vraiment victimes, mais d'autres sont vraiment consentants. C'est un travail de discernement qui n'est pas facile à réaliser. Donc, nous voyons qu'il y a ce large spectre entre, d'un côté, une demande tout azimut, et de l'autre, une demande de prise en charge avec le minimum de choix à faire. Il faut reconnaître que nous sommes tous situés quelque part par rapport à ce spectre. Et c'est intéressant de se le dire aujourd'hui, parce que dans l'Église aussi, il y a des personnes qui cherchent à trouver un équilibre dans tout cela. Alors, une première chose que je dirais, c'est qu'il est important d'entendre que dans cette quête, les gens désirent faire un travail sur eux-mêmes. Ils désirent avoir des outils. Ces outils, ça peut être des éléments de connaissance de soi, ça peut être des méthodes de méditation. Ils cherchent des maîtres. Ils cherchent des lieux. Ils cherchent des pratiques. Les plus exigeants cherchent des critères de discernement. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que on peut se poser la question dans l'Église. Où est-ce que nous pouvons accueillir, orienter des personnes qui sont dans une recherche de spiritualité, d'épanouissement, mais aussi de dépassement, et qui demandent effectivement des maîtres, des outils, des lieux, et qui ne savent pas toujours s'il y a une réponse dans la tradition chrétienne. Et parmi les chrétiens, il y en a qui se sentent tout à fait appartenants, je dirais, du pôle de ceux qui désirent des affirmations identitaires, sûres. Voilà. Voilà ce qu'on nous enseigne. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à débattre. C'est Dieu qui nous parle à travers le pape et les évêques. Et puis, c'est à prendre ou à laisser. Et on est dedans ou on est dehors. Et puis à côté de ça, il y a peut-être parmi nous des gens qui actuellement nous écoutent et qui se disent « Oui, je me sens appartenant au christianisme jusqu'à un certain point, mais dans tel ou tel domaine, je ne me retrouve pas. » Et c'est souvent d'ailleurs pour tout ce qui touche à la morale et particulièrement à la morale sexuelle. Et du coup, eh bien, les chrétiens se trouvent confrontés à la même question. Une diversité de demandes, une diversité de quêtes, une diversité de questions, et un besoin de lieux, de personnes, de maîtres spirituels, d'accompagnement, d'outils, un désir de faire un travail sur soi-même, et certains pensent que c'est impossible en christianisme, parce qu'on s'est tellement méfié de l'ego et de l'égocentrisme, que dans certains milieux chrétiens, faire un travail sur soi, ça paraît suspect. Alors que, personnellement, je suis profondément convaincu qu'il n'est pas possible de faire un cheminement spirituel profond et réaliste si on n'a pas fait un travail de connaissance de soi. Alors peut-être, au moment de vous quitter maintenant, je peux vous poser la question, à vous qui m'écoutez. Où est-ce que vous vous situez dans ce grand spectre de ces chercheurs? Si vous êtes un chercheur, si vous êtes à la quête d'un sens ou d'une réponse, et comment est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des lieux, des personnes de référence? Qu'est-ce qui est important pour vous dans une quête spirituelle?
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.